Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les annonces d'Edouard Philippe ont mis le feu aux poudres. L'âge pivot à 64 ans ne passe pas. Depuis hier soir, le secrétaire général de la CFDT exprime sa colère dans les médias et pose désormais ses conditions. Hors de question pour lui d'accompagner une réforme qui aurait des visées financières. Le Premier ministre cet après-midi appelle lui encore au dialogue. Rien ne semble en possibilité d'empêcher en tout cas les syndicats réformistes de se joindre au mouvement mardi prochain. La CGT Cheminots annonce de son côté qu'il n'y aura pas de trêve à Noël. Le bras de fer est cette fois-ci engagé avec des syndicats qui se sentent plus forts et un gouvernement qui ne veut pas céder. Alors pourquoi l'âge pivot est devenu un point de blocage? Qu'est-ce qui pourrait calmer le jeu? Les Français sont-ils en train de perdre patience? Retraite, l'enlisement jusqu'à Noël, c'est une question et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Cayrol, vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse de CETAN. Rappelons votre ouvrage, Le Président sur la corde raide, publié aux éditions Calmann-Lévy. Fanny Guinochet, vous êtes journaliste au service économie de l'Express, à la une de l'Express cette semaine, justement, retraite, les dessous de la réforme, nous y reviendrons. Nathalie Saint-Cricq, vous êtes éditorialiste à France Télévisions. Gilles Dansart, vous êtes spécialiste des transports et des relations sociales. Vous dirigez Mobilettre, une lettre d'information sur les questions de mobilité. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Roland Cayrol, il y a eu 2 ans de concertation. Le jour où le Premier ministre prend la parole, ça tourne au psychodrame avec des syndicats qui étaient favorables à la réforme, qui d'un coup disent la ligne rouge est franchie. Qu'est-ce qui s'est passé?
Un feuilleton inouï, cette histoire d'âge pivot. Ça apparaît dans le rapport Delevoye. Et tout de suite, c'est un sujet de discussion. Pourquoi un âge pivot quand on va faire une réforme à points? C'est une question d'ailleurs tout court. À quoi ça rime? Puisqu'on avait dit qu'on gardait l'âge légal à 62 ans. Ben, ça rime au fait qu'en effet, certains, dont sans doute Jean-Paul Delevoye et évidemment Édouard Philippe, pensent qu'il ne faut pas seulement régler le problème systémique, changer de système pour passer à un système à points, mais qu'il faut en même temps garantir à l'avance l'équilibre financier du nouveau système. Or, si c'est un système de justice sociale, bah, ce n'est pas ça qu'il faut mettre en avant, c'est la justice sociale.
Mais ça, on n'en a pas parlé pendant 2 ans ?
Sans en avoir parlé, non. Mais c'est des choses qui reviennent dans le débat, vous avez remarqué. Âge d'équilibre, âge pivot, bonus, malus sur la retraite, ça a toujours été dans le débat. À partir du moment où ça a été inscrit dans le rapport Delevoye, c'est devenu un enjeu beaucoup plus important. Et nous avions tous, je crois, cru comprendre que finalement c'était retiré, que c'était certains qui avaient pensé que c'était bien et qui en avaient convaincu Delevoye, mais que le chef de l'État avait compris que ça n'avait pas sa place dans ce type de réforme-là, que les problèmes financiers du nouveau régime seraient réglés dans le cadre du nouveau régime avec l'autorité qui va être écrite par la loi, qui va être composée notamment des partenaires sociaux. Donc c'était une façon de dire, bon, ben, c'est vous-même qui aurez à gérer, comme vous l'avez fait pour les cadres avec le système Agir-Carco, vous aurez à gérer le problème de l'équilibre. Et patatras, alors que ça paraissait bien parti pour un accord gouvernement et les syndicats réformistes, tous, tac, Édouard Philippe
sort ça. Mais c'est le patatras qui est inexplicable.
Il est inexplicable parce qu'il y a visiblement, au sein de l'équipe du pouvoir, je ne vais pas faire d'hypothèse sur qui dit quoi à qui.
Mais enfin, il y a deux lignes.
Il y a deux lignes. Voilà, il y a une ligne qui est, disons, pour faire simple, plus à droite, ce qui est le plus important quand même, c'est de garantir l'équilibre financier du système, et les Français ne nous permettraient pas de pas y veiller. Et puis il y a une ligne qui est plus sensible au violon de la CFDT, notamment, et qui dit attention, on ne gouverne pas un pays, on ne fait pas une réforme pareille contre l'essentiel des acteurs sociaux sur qui il faudra compter.
Fanny Guinochet, on a l'impression que ça s'est joué quasiment la nuit d'avant, avec un arbitrage un peu à l'arraché, parce que, ou alors c'est un jeu d'acteurs absolument formidable, où chacun est absolument dans son rôle, mais on a cru voir un Laurent Berger très en colère sur le plateau de France 2 hier
alors,
soir.
Alors, il est très en colère, ça c'est un fait.
Alors,
est-ce qu'il surjoue, je ne sais pas, mais il y a une colère profonde. Mais quand on regarde, quand le rapport Delevoye est remis, le 18 juillet dernier, eh bien, l'âge pivot est dedans. Et d'ailleurs, Laurent Berger est le seul alors les syndicats le commentent, mais est le seul qui pointe l'âge pivot en disant que ça ne lui convient pas. Il le fait assez doucement, c'est la remise du rapport, les arbitrages ne sont pas rendus, ça passe au cœur de l'été, le gouvernement se dit bon, Laurent Berger n'est pas très content, mais finalement il y a plein d'autres choses dans ce rapport qui vont lui plaire, puis finalement cette réforme par points, c'est le truc de la CFDT, ça va passer. Sauf que, en fait, ça ne passe jamais et qu'entre le mois de juillet et ce que l'on vit actuellement, il y a eu quelques discussions et que le gouvernement, c'est exactement ce que vous venez de dire, balance entre les deux. C'est-à-dire, bon, est-ce qu'on garde cet âge pivot? Est-ce qu'on l'enlève? Il faut quand même faire des mesures d'économie parce qu'entre-temps, il y a en plus un rapport du CORE, du Conseil d'orientation des retraites, qui explique qu'il va manquer des milliards d'économies. Donc, que du côté de Matignon, parce qu'on voit très bien d'où ça vient, hein, du côté de Matignon et d'une partie des budgétaires, on dit c'est pas possible de rentrer dans un nouveau système en ayant autant d'argent, en ayant un tel déficit. Et puis de l'autre, d'autres qui disent, oui, mais c'est quand même une réforme qui doit être projetée beaucoup plus à long terme, qui est une réforme presque philosophique. Les mesures paramétriques, finalement, enfin, en tout cas, les mesures pour budgétaires, on va les repousser. Et donc, Laurent Berger voit bien qu'au sein de l'exécutif, il y a deux pôles qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Les arbitrages ne sont pas rendus, ils se rendent très tard, et on voit ce que ça donne. Finalement, pour le coup, c'est Édouard Philippe qui remporte la mise, parce qu'il assure que dans ce qu'il présente, il y aura des mesures paramétriques, cet âge pivot. Et là, eh bien, écoutez, pour Laurent Berger, l'arbitrage a été rendu. Le projet de loi, c'est quasiment le projet de loi ce que présente Édouard Philippe. Et il exprime son mécontentement.
Oui, alors pour préciser, j'ai l'impression que le patatras en question, c'était dans la nuit de mardi à mercredi, que manifestement Laurent Berger n'avait pas été prévenu, qu'un certain nombre de convives, disent-ils aujourd'hui, alors peut-être que je me fais embarquer par les gens de la majorité, disent en gros à 2h moins le quart, il n'y a pas de paramétrique, donc tout va bien, et on se retrouve le lendemain matin avec Édouard Philippe qui annonce exactement le contraire, et que manifestement il s'est passé des arbitrages dans la nuit avec Emmanuel Macron qui a peut-être été convaincu qu'il leur donnait un go, ouais, en disant allez-y. Ils ajoutent également qu'ils ne pensaient pas que la colère de Laurent Berger serait à tel point. C'est-à-dire qu'en gros, ils se diraient, c'est moche ce qu'ils font, qu'ils feraient un peu la tête, mais que ça ne serait pas au point.
Ils ont sous-estimé.
Sous-estimé la colère de Laurent Berger. Et on a toujours tort de sous-estimer la colère de Laurent Berger, qui a des relations assez conflictuelles avec l'exécutif et qui considère surtout que la relation de confiance n'existe pas. Et quand on lui dit, mais Nicole Nota, Jacques Chirac, on lui a dit hier soir, on a parlé avec lui, il dit, oui, mais Nicole Nota, Jacques Chirac, c'était Jean-Pierre Raffarin. Tout ça, c'était d'autres gens, donc une relation tendue. Et lui, et d'ailleurs, les termes qu'il emploie sont assez intéressants ce matin, il a dit, je ne veux pas me faire marcher dessus. C'est-à-dire qu'en gros, il ne veut pas prendre le risque, un, d'être discrédité par rapport à ça, discrédité dans l'absolu, comme l'espèce de syndicat collabo qui se fait avoir, et deuxièmement, dépassé par sa base.
Il y a des gens qui nous regardent ce soir et qui se disent peut-être, oui, bon, d'accord. Il est fâché, c'est la vie. Pourquoi c'est grave pour la suite de la réforme que quelqu'un comme Laurent Berger, qui est le patron de la CFDT, dise « la ligne rouge a été franchie, ce sera sans moi ». Pourquoi c'est grave? Et est-ce que c'est grave d'ailleurs pour le gouvernement, à votre avis, Gilles Dansin?
C'est grave parce que ça pénalise les autres efforts qui ont été faits justement pour séduire, convaincre un certain nombre de grévistes de reprendre le travail. Cette dramaturgie qui est insensée, elle révèle d'abord un problème de méthode qui est récurrent. On se souvient que pendant les Gilets jaunes, le gouvernement a donné 17 milliards, mais c'est comme s'il n'avait rien donné d'une certaine façon. Il était un peu à contre-temps. Ça a calmé le jeu, mais à quel prix? Et là, il y a eu beaucoup de concessions d'une certaine façon faites sur les régimes spéciaux. 75% des tractionnaires ne seront pas concernés par la réforme. 60% de l'ensemble des populations à régime spécial seront épargnées. Donc, et puis là, cette décision sur l'âge pivot remet tout en cause. Donc en fait, c'est un énorme gâchis. Des efforts et un certain nombre de concessions. Alors, ce n'est pas à nous de juger si elles sont suffisantes. C'est aux acteurs sociaux. Mais en tout cas, un détail. Cet âge pivot qui n'est pas essentiel dans la réforme systémique puisque c'est...
La réforme peut se passer de l'âge pivot ?
Voilà. Tout à fait, la réforme systémique peut tout à fait se passer de l'âge pivot. Et là, il y a cet abcès qui fait que ça bloque tout le système et ça relance d'une certaine façon ce conflit qui devient totalement atypique, qui devient
étonnant. Pourquoi est-il
étonnant,
atypique, selon vous ?
Mais parce que normalement, dans un conflit, on avance, on met des choses sur la table et puis ça se discute, etc. Et là, ça remet dans le jeu une force syndicale qui était la plus proche de signer et d'être conciliante. Donc il y a quelque chose d'assez incohérent dans la méthode, et ce n'est pas la première fois depuis 2 ans qu'il y a comme ça une méthode qui surprend et qui finalement...
Mais est-ce que c'est une méthode, sans être désagréable, ou est-ce que c'est une forme d'improvisation et de gestion au jour le jour? Quelle est votre lecture?
Ça ressemble très clairement à une improvisation. Mais quelque part, quand on est au gouvernement, on ne prend pas des termes, on n'emprunte pas des termes comme Édouard Philippe fait le pari, je fais le pari, a-t-il dit, je fais le pari que ça va réussir. On ne fait pas un pari. Donc là, il y a quelque chose...
C'est maladroit, selon vous, c'est une forme de provocation de dire ça?
Oui, ça peut s'apparenter aussi à une provocation. C'est-à-dire qu'on est, ouais, on est quand même dans une forme de gouvernement qui est assez étonnante.
Oui, d'autant plus que le paradoxe, pour revenir au début, c'est que Laurent Berger est pour la réforme des retraites. Et il se retrouve à aller manifester, non pas à côté de la CGT de FO, mais le même jour, alors que eux veulent purement et simplement la suppression de ce régime, et qu'il n'y a pas que la CFDT. C'est-à-dire que la CFDT, c'est un château de cartes. Vous avez la CFDT qui ne veut pas, vous perdez l'UNSA, vous perdez la CFTC, vous perdez tout le monde, et vous perdez la CGC aussi.
Et donc, on va en parler parce qu'ils ont maintenant des revendications communes. Je voudrais qu'on regarde le premier reportage. Il était l'un des principaux, vous l'avez dit, défenseurs de la réforme. Il est passé hier dans le camp des opposants. Laurent Berger, le patron de la CFDT, n'accepte pas le principe d'un âge pivot à 64 ans, qu'il trouve injuste pour ceux notamment qui ont commencer à travailler très tôt. Il refuse le principe d'une réforme financière. Alors face à ce coup de sang, Édouard Philippe l'assure, le dialogue reste encore possible avec le gouvernement. Barbara Steck, Mélanie Nunez.
Il ne décolère pas. Et sa défiance face au gouvernement marque un tournant. Il le dit et le répète depuis hier midi, la ligne rouge a été franchie. Le patron de la CFDT à la tête du premier syndicat de France, pourtant favorable à un régime universel par points, rejette l'instauration d'un âge pivot à 64 ans.
La CFDT, elle est contre cette mesure d'économie. Parce que les efforts avaient été faits dans les réformes précédentes. Aujourd'hui, c'était le temps de la justice et de l'égalité. Donc la CFDT, elle veut que le gouvernement revienne en arrière sur cette mesure paramétrique, cette mesure d'économie, de faire travailler les gens plus longtemps dès 2022. Et donc, nous appellerons les salariés le 17 à manifester avec nous.
Laurent Berger rejoint la rue. Coup dur pour le gouvernement qui voit le camp syndical réformiste se braquer. Alors depuis hier soir, Édouard Philippe et ses ministres se succèdent en studio et en plateau. Ils appellent tour à tour au dialogue.
J'ai indiqué que sur beaucoup de sujets, nous n'étions pas fermés, que ma main était tendue, que ma porte était ouverte. Quelle que soit l'expression qui soit retenue, nous ne sommes pas fermés. Mais nous sommes déterminés. Car oui, le temps du régime universel, il est venu.
Bah, le Premier ministre a dit, nous, on pense qu'il faut équilibrer sans baisser les pensions, sans augmenter les cotisations. On pense donc que c'est en travaillant plus qu'on y arrive. Effectivement, il y a la question de l'âge qui se pose. Mais si les partenaires sociaux se mettent d'accord sur autre chose pour équilibrer le système des retraites, c'est ce qu'a dit le Premier ministre hier dans son discours, le gouvernement écoutera les partenaires sociaux.
La CFDT qui bascule, une mauvaise nouvelle pour le gouvernement alors que le haut commissaire aux retraites est mis en difficulté, épinglé une nouvelle fois pour ses fonctions en dehors du gouvernement. Les gens plus aisés, rémunéré par un groupe de formation, Jean-Paul Delevoye s'est engagé cette semaine à rembourser les sommes perçues.
Qui permet d'augmenter le minimum. Compte tenu des suspicions que certains n'ont cessé d'alimenter, j'ai mis un terme à toutes mes activités. Et je suis au clair par rapport à cela.
Un peu partout en France, la mobilisation contre la réforme des retraites continue. La grève s'installe dans les transports avec son lot quotidien d'images de chaos en région parisienne. À Marseille, la CGT bloque l'accès au port. Et le syndicat avertit, il n'y aura pas de trêve pour Noël.
La grève continue et nous sommes au regret, parce qu'on n'était pas parti comme ça, de constater que le gouvernement est droit dans ses bottes et que donc elle va durer longtemps.
Cet après-midi à Paris, au départ de la place de la Nation, les manifestants sont ragaillardis, malgré la pluie et le froid.
Le temps est pourri.
Ils sont peu nombreux, mais persuadés de pouvoir faire plier le gouvernement.
Les assemblées générales qui sont réunies aujourd'hui ont décidé de reconduire la grève, puisque l'objectif, c'est le retrait. Donc, on ne tient pas à s'installer dans le conflit, on tient à ce qu'il y ait un retrait. Le plus tôt sera le mieux.
La mobilisation se durcit. Nous, de notre côté, on essaie de sensibiliser un maximum les salariés sur les enjeux pour que le mouvement puisse s'inscrire dans la durée.
C'est dommage qu'on en arrive là, en fait, parce que c'est à lui de céder. Hein. On est en démocratie, hein. Normalement, on doit écouter le peuple. Hein. On n'a pas été élu pour 5 ans à faire ce qu'on veut quand on est en président de la République. Et puis bon, on n'a pas été élu non plus beaucoup avec des voix. Il faut rappeler qu'en 2017, hein, M. Macron n'a pas été élu avec tant de votants que ça. Hein.
La très puissante CFDT sera donc dans la rue mardi pour garnir le cortège. Mais Laurent Berger a d'ores et déjà annoncé qu'il ne serait pas dans le carré de tête avec la CGT de Philippe Martinez.
Nous reviendrons sur les relations entre Philippe Martinez et Laurent Berger s'il y en a. Mais d'abord cette question, que nous proposent les syndicats hormis la grève? Visiblement quelqu'un qui est un peu agacé.
Écoutez, Jean-Louis, dans l'Aude. Il y a deux coalitions de syndicats. L'une, la CGT, FO, Sud, Solidaires, etc., et les gauchistes. Qui veulent pas de ce, bah oui, des gauchistes, qui veulent absolument pas de ce système et qui veulent qu'on garde le système de retraite actuel, dont Martinez nous a en plus déclaré sans sourire que c'était le meilleur système du monde. Ça, avec eux, il y a rien à négocier. Ils peuvent continuer la grève et le mot d'ordre, c'est qu'ils le retirent. Le gouvernement le retirera pas. Donc là, on aura durcissement d'une fraction de ceux qui sont les plus proches de ces organisations syndicales et qui vont continuer à bloquer. Et puis, il y a le bloc des syndicats réformistes. CFDT, CFTC, CGC, CFTC, la FAGE étudiante. UNSA. Et ceux-là, ils veulent négocier. Et ils sont, a priori, d'accord pour entrer dans un système où on rediscute à partir de l'âge pivot et des différents.
Encore aujourd'hui, ils sont prêts au dialogue.
Encore aujourd'hui, bien sûr, ils attendent le coup de téléphone où ils vont pouvoir se rendre à la rendez-vous qui leur sera proposé. Discuter de l'âge pivot et discuter d'un certain nombre de points dans le texte actuel, dont la pénibilité, qui leur paraissent pas suffisamment clairs. Peut-être aussi un tout petit peu les problèmes familiaux pour ce qui concerne la CFTC. Donc voilà, on a des syndicats qui bloquent et des syndicats qui attendent un nouveau feu vert du gouvernement pour pouvoir recommencer à discuter pour arriver à un accord. J'insiste sur le fait que la ligne rouge, ce n'est pas un mot qu'a inventé hier matin Laurent Berger, il l'avait déjà employé 3 fois en disant, à propos de l'âge pivot, il l'avait dit gentiment, comme vous l'avez dit, mais il l'avait dit, ce serait une ligne rouge. Tout le monde le savait. Et moi, je veux bien qu'on personnalise, parce que c'est toujours plus facile, mais ce n'est pas Laurent Berger, c'est toute la CFDT, unanime, qui est arc-boutée sur cette affaire. Vous sachiez quand même qu'ils ont adopté en Congrès la retraite à points après de longs débats en 2003, et que depuis, c'est leur bébé qu'ils y veillent absolument, et que là, il n'y a pas de courant dans la CFDT. Ils sont tous d'accord. Donc c'est le plus grand syndicat de France et ses alliés réformistes qui sont concernés. C'est pour ça que c'est grave. Ce n'est pas une querelle d'égo entre des corps.
C'est important ce que vous dites. Ça veut dire que le gouvernement ne peut pas se passer pour aller au bout de cette réforme-là de la CFDT?
Moi, c'est ce que je pense. Je pense que, d'une façon générale, un gouvernement ne peut pas réformer sur des sujets aussi majeurs que ça. C'est le psychodrame principal de la société française, de la retraite, depuis toujours. L'abaissement de l'âge de la retraite a été la première revendication des Français entre 1950 et 1980. Pendant 30 ans, dans tous les sondages, qu'est-ce que vous voulez en premier? L'abaissement de l'âge de la retraite. Ils l'ont eu en 81. Ça a causé les problèmes financiers que nous savons. Et maintenant, on revient petit à petit de réforme en réforme. Et enfin, on propose une réforme systémique. Donc voilà, on est devant un moment extrêmement important qui n'est pas encore une fois une bataille personnelle. Ouais. Et je crois qu'on ne peut pas gouverner une société sans le faire avec les acteurs sociaux principaux de cette société. Ce n'est pas un décret qu'on prend dans un coin. Ça concerne la vie des gens. Donc il faut un accord.
Il y a une prise de conscience au sommet de l'État de ce qu'est en train d'expliquer Roland Kayrol sur le fait qu'au-delà des postures, de toute façon, il faut trouver le moyen de faire revenir ce bloc de syndicats qui veut avancer.
Là aussi, il y a un débat. En tout cas, il y a un débat actuellement avec certains qui se disent on ne peut pas se passer de la CFDT pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées. Et puis d'autres qui disent finalement, ça ne pèse pas tant que ça. Finalement, ce n'est pas Laurent Berger qui a la clé pour que trafic reprenne dans les transports. Parce que finalement, dans les transports, la CFDT, certes, il y a l'UNSA qui est proche, mais la CFDT ne pèse pas tant que ça. Donc, avoir un allié pareil, à quoi bon ? Laurent Berger a été critique sur d'autres parties du gouvernement, sur la politique d'immigration, par exemple. Donc, on voit bien que ça touche deux visions de la société, deux philosophies. Et là où c'est compliqué, c'est que c'est vrai que Laurent Berger, c'est le premier syndicat, c'est 600 000 adhérents. La CFDT aujourd'hui, il faut le rappeler, c'est le premier syndicat dans le privé et dans le public. C'est aussi le symbole d'une négociation, du dialogue social bien mené. C'est pas quelqu'un qui... Il a souvent pris le mot d'hystérisation. Il hystérise pas la société. Quand il y a eu l'huile sur le feu, quand il y a eu le conflit sur les gilets jaunes, il en a pas rajouté. Au contraire, il a fait des mains tendues, etc. Et on voit bien que c'est tout ce que ça représente. Et du coup... Politiquement, ça représente aussi quelque chose. Derrière, Laurent Berger, il est soutenu par des associations. Il a signé un pacte du pouvoir de vivre avec tout un tas d'associations caritatives. Il est soutenu, il a signé des tribunes avec Nicolas Hulot, donc il y a une sensibilité écolo qui peut le suivre. C'est là où c'est plus gênant, au-delà même d'avoir ou pas la CFDT sur le simple dossier des retraites. Se fâcher avec la CFDT, c'est un symbole. Parce que dans la tête aussi des gens qui ne comprennent pas forcément toute la technicité de ce dossier retraite, c'est de se dire... Ah bah la CGT qui est contre, on s'y attend. Mais alors même si Laurent Berger tape du poing sur la table, c'est que vraiment il y a une entourloupe quelque part.
Alors l'entourloupe pour Laurent Berger, c'est la réforme financière. Il y a peut-être des gens qui nous regardent ce soir et qui disent oui mais à un moment donné, il va falloir peut-être équilibrer le régime des retraites. Vous avez parlé du rapport du COR qui faisait état d'un manque de 8 à 17 milliards d'euros pour 2025. Et puis ils se souviennent peut-être de ce qu'avait dit le président de la République qui avait dit je refuse ce que j'appelle les réformes paramétriques, les approches comptables qui rogne des droits sans offrir de nouvelles perspectives. Alors là, on se dit, qui a décidé ? Emmanuel Macron, il avait l'air d'accord avec Laurent Berger sur le fait qu'il ne fallait pas tout mélanger.
C'était assez logique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se lancer forcément en même temps, comme le disait Roland tout à l'heure, dans une réforme systémique et dire une réforme paramétrique, au sens où si on dit après 64 ans, normalement les points, c'est on décide de partir en fonction des points communs au moment qui vous arrange. Donc il y a eu des changements de pied d'Emmanuel Macron qui sont compliqués. Reste que, in fine, la personne qui est de plus en plus attachée, et comme toujours à ça, c'est Édouard Philippe. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a eu des va-et-vient permanents. Et ce qui a clashé là, c'est pas, il ne faut pas présenter Laurent Berger comme une espèce d'irresponsable qui dirait on dépense, on fait ce qu'on veut. Bon, enfin,
il a dit 8 milliards, c'est l'épaisseur du trait.
Oui, mais il est totalement c'est d'accord. Vrai. Sauf que quand hier, on lui propose de repousser l'équilibre de 25 à 2027 et qu'on lui dit en gros, vous allez négocier avec les partenaires sociaux, mais ça sera 64 ans. Ça sera 3 mois de plus à partir de 2022. Il dit, mais on sert à quoi si on négocie ?
Alors,
il
est conscient. C'est juste pour rappeler ce que vous expliquez qui est important. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté du gouvernement de dire, vous énervez pas, c'est pas grave, il y a l'âge pivot, mais on va pouvoir se mettre tous autour d'une table et on va trouver les moyens de trouver l'équilibre financier. C'était ça.
Encore faut-il avoir quelque chose à négocier. C'est-à-dire qu'il n'est pas irresponsable. Du moins, il dit qu'il n'est pas irresponsable. Que c'est pas comme dit Édouard Philippe, moi je m'intéresse au financement.
C'est ça.
Lui, il s'intéresse pas à ça. Non. Simplement, il est totalement capable. Et ils ont été capables dans d'autres. Comme à l'ARCO, de se mettre d'accord entre partenaires sociaux, il demande simplement à ce qu'il ait le droit de négocier quelque chose et de proposer quelque chose.
Qu'est-ce qui peut se passer, Nathalie Sacric ?
Écoutez, attendez, j'ai pas de... Ce qui peut se passer, je pense...
Dans non pas la personnalité, mais les enjeux des uns et des autres. C'est-à-dire on a bien vu qu'Édouard Philippe tendait la main.
On a vu qu'il tend la main, ou du moins qu'il dit tendre la main. On a entendu Gérald Darmanin, on a entendu Bruno Le Maire, on a entendu Nicole Pénicaud tout à l'heure, qui, même si elle risque de se faire remonter les bretelles, pour parler vulgairement, a quand même laissé entendre qu'il y avait de la négociation possible autour des 64 ans. Ce qui serait probable ou plausible en fonction de la volonté d'Emmanuel Macron de pousser Édouard Philippe à être un peu plus coulant, c'est qu'il y ait une formulation où il n'y ait pas ces maudits 64 ans qui bloquent tout et que personne surtout perde la face. Parce que l'histoire, c'est personne ne veut perdre la face, personne ne veut donner l'impression de reculer. Laurent Berger ne veut pas passer pour un jaune et Édouard Philippe ne veut pas passer pour quelqu'un qui cède. Voilà.
Il est tenu par sa base. Vous parliez tout à l'heure du syndicat. Vous parliez 600 000 militants à la CFDT. Il est tenu par la base de la CFDT aussi, Laurent Berger ?
Ah oui, très certainement. Il y a une cohérence à la CFDT. Il racontait vraiment beaucoup ces derniers mois combien il devait lutter sans arrêt pour rester dans le champ de la négociation, du compromis, du contrat social. C'est une lutte permanente, parce que bon, ce sont des effectifs qui ne sont pas non plus nombreux en France, les effectifs syndicaux, c'est des gens qui sont assez rodés, qui ont une culture qui était naturellement, historiquement, un peu une culture de la confrontation. Donc il y a eu un gros effort de fait à la CFDT pour amener, décennie après décennie, année après année, vers la culture du compromis. Et donc c'est un effort permanent. Donc il a réussi à tenir sur cette ligne-là à la CFDT. Et là, c'est un désaveu manifeste du gouvernement. Donc il n'a pas le choix. Parce qu'il faut rajouter aux forces syndicales dont on a parlé il y a quelques instants le poids de la base. Les syndicats ne sont pas revenus tout d'un coup absolument les maîtres du jeu. Il faut bien se rendre compte, quand on regarde les cortèges, quand on regarde les mobilisations, etc., il y a des collectifs qui se montent. Il reste une certaine méfiance envers les syndicats, donc ils ne peuvent pas non plus faire n'importe quoi. Donc ils sont tenus aussi par une base qui, grosso modo, on verra peut-être tout à l'heure corporation par corporation, est assez remontée quand même contre ce projet de réforme.
Est-ce qu'il reconnaît qu'il y a de bonnes choses dans cette réforme ?
Oui, il le dit, mais ça ne va pas assez loin.
Bien sûr.
Par exemple, sur la pénibilité, oui, il y a un abaissement, enfin une meilleure prise en compte, on va dire, du travail de nuit, par exemple, dans cette réforme. Mais Laurent Berger et la CFDT voulaient qu'il y ait plus de critères qui soient pris en compte. Donc, il y a encore des marges de négociation sur les carrières longues, par exemple, qui est le dispositif sur lequel la CFDT est très attachée, parce que c'est eux qui l'ont poussé. Et ce dispositif, ça permet de partir, quand vous avez commencé à travailler très tôt, de partir avant l'âge légal, c'est-à-dire avant 62 ans. Bon, bah, dans la réforme, Édouard Philippe a bien dit qu'il maintenait le dispositif des carrières longues pour ceux qui avaient démarré tôt. Donc, il y a quand même des bonnes choses. Le dispositif en soi est bon. Simplement, c'est vrai que cette mesure d'équilibre, ce logiciel budgétaire, pourquoi Laurent Berger le refuse aussi ? C'est parce qu'il y a eu plusieurs choses dans le quinquennat qui font que ce logiciel budgétaire s'est appliqué. Le plan pauvreté, si vous reprenez le plan pauvreté, Laurent Berger était monté au créneau en disant auprès d'Emmanuel Macron qu'il fallait faire quelque chose, un plan pauvreté, et on était tombé, il y avait eu déjà un bras de fer sur le logiciel budgétaire. L'assurance chômage, la réforme de l'assurance chômage, où les partenaires sociaux, on leur a demandé de négocier, là aussi, le sentiment, c'est d'avoir eu à négocier le pistolet sur la tempe, c'est le logiciel budgétaire qui a primé. On leur a dit, changez les règles d'indemnité du chômage, mais attention, vous devez faire plus d'un milliard d'euros d'économies par an. Bon, bah, ça veut dire vous négociez, mais le cadre, il est extrêmement contraint. Et tout ça, c'est aussi ce qui permet de comprendre la colère de Laurent Berger.
Oui, c'est pas comme ça du jour au lendemain, c'est pas un caprice.
Et le sentiment de rupture de confiance qu'il y a avec l'exécutif.
C'est pas un caprice de la part de Laurent Berger.
A priori, non.
C'est l'histoire d'une rupture que vous avez parfaitement expliquée. Roland Carole.
Oui, revenir sur cette histoire de philosophie. Quand le Premier ministre, devant son discours au Conseil économique, dit, visant Laurent Berger, un dirigeant d'organisation syndicale, il a des comptes à rendre à son organisation syndicale. Moi, j'ai des comptes à rendre aux Français. Il faut que vous compreniez qu'un dirigeant de la CFDT pense ça comme une baffe. Pour lui, la CFDT, c'est dans tous ses textes idéologiques, travaille au nom de l'intérêt général. Donc c'est deux façons de travailler pour l'intérêt général. L'un pour le suffrage universel, l'autre pour les travailleurs. Donc, considérer qu'on ne sert à rien à ce point, c'est quelque chose qui est inadmissible. Ça renvoie exactement à la conception macronienne qu'il avait pendant sa campagne présidentielle, qui est les syndicats, c'est formidable dans l'entreprise, mais au niveau national, ça ne sert qu'à perdre du temps. Ben voilà, il est en train de s'apercevoir que c'est peut-être pas le cas. Et du coup, parliez de la sortie. Il y a une sortie évidente. La sortie évidente, c'est que voilà, on retire ses 64 ans. On le fait élégamment pour montrer que quand même, par ailleurs, on est d'accord. On moue un peu du grain avec chacune des organisations pour leur donner quelque chose. Et on termine en beauté en sortant par le haut. Édouard Philippe assume tout cela, il signe et il reste Premier ministre. La vie est belle.
Mais...
Pourquoi j'ai un doute ? C'est que je crains qu'Emmanuel Macron soit trop sûr de lui. Je crois qu'il est dans cette période assez content de la façon dont il a géré cette affaire, qu'il est persuadé qu'on peut aller un peu plus loin, qu'on n'est pas forcé de faire ce qui pourrait apparaître comme une capitulation du pouvoir. Et dans ces conditions, sûr de lui, j'ai peur qu'il tienne encore un peu trop.
Pourquoi vous dites j'ai peur ? Parce que c'est un mouvement social qui bascule.
Parce que pour la société française, il vaudrait mieux qu'on termine par un accord global de gens qui engagent la société que sur un bras de fer qui continue.
Tout le monde est perdant aujourd'hui dans ce conflit. l'économie française, le pouvoir, la classe dirigeante. Enfin, c'est vraiment...
Il y a la tentation du passage en force, c'est ça que vous nous expliquez. La tentation du passage en force parce qu'il s'adresserait à un électorat de droite et qu'il a en vue la prochaine présidentielle, c'est ça qui se joue?
Oui, puis qu'il ajuste aussi sa façon de voir les choses à son propre comportement. C'est-à-dire qu'il regarde, il accumule des chiffres, il dit, bon, ben là, on sort 60% d'une population du système, oh, ça devrait aller. C'est pas comme ça que réagit le corps social. Il n'est pas dans une arithmétique aussi étroite. Il y a de l'intérêt général, il y a de l'idéal, il y a tout ce que Laurent Berger défend. Donc, et d'autres syndicalistes. Oui. Donc, on ne peut pas réduire cette mobilisation à des petits marchandages. Ça se joue bien au-delà.
Oui, alors, on ne devrait pas.
On ne devrait pas.
Enfin, définitivement, il y avait une terreur pour Emmanuel Macron. C'était de passer pour quelqu'un qui est plus capable de réformer, parce qu'on aurait dit, bon, la fin du quinquennat, c'est une grande sieste en attendant 2022, et que les gens qui le soutiennent encore sont ceux qui le créditent de ses capacités réformatrices. Donc, il a un enjeu quand même pour 2022. Deuxièmement, il est remonté dans les sondages. Ils ont tous des sondages. Il est remonté chez les électeurs de François Fillon ayant voté pour lui. Troisièmement, il continue à asphyxier un peu la droite, c'est-à-dire que s'il maintient un projet assez dur et tout, les droites qui aujourd'hui nous fait un contre-projet sur les retraites, certes, mais globalement, il marque des points. Alors après, tout effectivement, l'arbitrage sera, est-ce que ces points gagnés valent le coup par rapport aux points perdus et au risque que la fin du dialogue social soit entérinée, que ça se fasse maintenant dans la rue, c'est-à-dire quelque chose de non contrôlable.
Et vous parliez des chiffres, il y a d'autres chiffres qui regardent sans doute, c'est ceux de l'opinion des Français. Un dernier sondage qui a été fait après les annonces d'Edouard Philippe hier, qui dit qu'il y a 50% des Français qui sont favorables à la réforme et 49% qui sont opposés à la réforme, avec une vraie rupture générationnelle dans ceux qui la soutiennent, plutôt les plus âgés et les jeunes qui s'en méfient. Ça, ce sont des rapports qui sont... Qu'est-ce qu'on en dit quand on voit arriver des chiffres comme ça sur le bureau du président? On dit tout est joie.
Moi, je crois que c'est ça. Vous savez que c'est des chiffres quand même limites, hein? Moitié-moitié, vous avez dit.
Oui, c'est ça.
Bon, ben, je crois que comme ça va dans le bon sens pour le pouvoir, c'est ça qui alimente l'espèce de certitude de Macron qui peut y mettre une louche de plus. Il est content de cette évolution. Il y a le même institut Harris avait publié la veille un sondage qui montrait qu'il y avait aujourd'hui, si on additionne les gens qui étaient d'accord avec le projet tel qu'il est et qui le voteraient s'il y avait quelques modifications seulement, c'était 45%. Et c'était déjà 5 points de plus que la semaine d'avant. Donc vous avez cette évolution. 40, 45, 50. Sur ce seul sujet, ce n'est pas le soutien à la grève, c'est la réforme elle-même. Il a gagné 10 points, en vérité, dans cet institut pendant 15 jours. Donc, ils doivent se dire, ça va dans le bon sens.
Et ils auraient tort, vu qu'il est un spécialiste de l'opinion, ils auraient tort.
Je crois qu'ils auraient peut-être tort, parce que ce n'est pas seulement l'opinion qui compte, il ne faut pas avoir 50%. Il faut aussi, dans le social, avoir des acteurs sociaux qui portent ensuite les réformes.
Alors, ils étaient exsangues il y a encore quelques mois. Ils retrouvent de la voix. Les syndicats ont passé la première partie du quinquennat sur un strapontin, mais avec la réforme des retraites, les voilà de nouveau au centre du jeu. Pierre-Mila Bellando et Mélanie Nunes.
C'est encore les précaires et les chômeurs qui sont dans le collimateur du gouvernement. La mobilisation reste importante et le mécontentement reste aussi haut. La réponse, elle est aujourd'hui dans les grèves et dans la rue. Tout le monde est concerné et tout le monde est mobilisé.
C'est devenu la figure la plus radicale de la contestation contre le gouvernement. Philippe Martinez, leader de la CGT depuis 4 ans, vit son heure de gloire. Et avec lui, tout un syndicat.
Qu'on dise que les syndicats se refont une santé, on les a tellement enterrés que finalement certains ont cru qu'ils avaient disparu, la preuve que non.
Retour en grâce, les salariés ils vont toujours voir les syndicats quand ils ont besoin. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement, si ce n'est que là, c'est tous les salariés d'un coup qui s'inquiètent pour leur retraite et tous ont besoin des organisations syndicales et singulièrement de la CGT pour les défendre.
Aujourd'hui encore, dans les grandes villes de France, comme ici à Paris, la CGT était en première ligne contre la réforme des retraites. Défiler rime alors avec recruter. Depuis le début de la mobilisation, les adhésions se multiplient, y compris au cœur des cortèges.
La carte, tu me l'as fait pour dans combien de temps?
On va voir ça la semaine prochaine. On voit ça la semaine prochaine.
Super. Voilà. Ils se sont mobilisés. Quand on a des soucis, ils sont là à proposer des solutions pour être défendus. Et voilà.
C'est bien la preuve que les salariés ils attendent beaucoup des syndicats, dont la CGT, et que la CGT est en train de se renforcer partout, dont à la SNCF. Là, depuis le 5 décembre, c'est pratiquement 170 cheminots qui ont rejoint le syndicat de la CGT.
Et 2019 pourrait bien être l'année du retour des grandes figures syndicalistes. Ce sont elles qui dictent aujourd'hui le tempo de la réforme des retraites.
Nous accueillons le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, bonsoir.
Bonsoir.
Il y a Laurent Berger de la CFDT, Yves Verrier de Force Ouvrière ou encore Laurent Escure de l'UNSA. Ce syndicat modéré, présent lors des grèves de 1995 ou lors du CPE en 2006, s'est fait un nom. Il est même devenu numéro 1 à la RATP. Avec la CFDT, l'UNSA surfe aujourd'hui sur le syndicalisme de proposition.
Lorsque nous avons manifesté sous le gouvernement Sarkozy, nous avions une plateforme de l'intersyndicale qui était assez cohérente, mais je dois dire qu'il n'y avait pas vraiment, pour une partie du syndicalisme, des véritables contre-propositions élaborées. Bien. Là, pour une partie du syndicalisme, il y a des contre-propositions, il y a des points de vue, et donc ça fait une différence.
Et si les syndicats prenaient la place de l'opposition politique ? Un an après le début du mouvement des Gilets jaunes, la mobilisation contre la réforme des retraites semble échapper aux partis de gauche. Hier, communistes, socialistes, anticapitalistes et insoumis se sont réunis pour la première fois depuis 23 ans avec un objectif, exister davantage dans ce qui pourrait être un tournant politique contre le gouvernement.
Le gouvernement fait l'unanimité contre lui. L'ensemble des forces syndicales aujourd'hui se réunissent contre cette réforme de retraite et ici toutes les forces de gauche écologistes aussi sont unies.
C'est pas un remake de l'Union de la gauche parce qu'on a eu des gouvernements de l'Union de la gauche qui malheureusement ne sont pas revenus sur des mesures que la droite avait mises en place sur la question des retraites notamment. C'est simplement, en tous les cas je l'espère, c'est le sens de ma présence, un engagement commun à soutenir, à accompagner la mobilisation sociale.
Union des gauches, rapprochement politique qui entend appuyer le combat syndical. Mardi prochain, ils seront dans la rue pour défiler contre la réforme des retraites.
Et cette question qui nous est posée ce soir, et peut-être que vous posez les uns et les autres, la grève peut-elle vraiment durer jusqu'à Noël ? Je me tourne vers vous, Gilles Dansart, pourquoi on se pose cette question ? Parce que la CGT cheminot a dit qu'il n'y aura pas de trêve de Noël.
Ça s'effrite un petit peu, mais à partir du moment où les conducteurs maintiennent des niveaux élevés de mobilisation, effectivement, ça va durer. Et on peut même dire que si la grève reste à un niveau élevé jusque ce week-end, jusqu'en début de semaine prochaine, le premier week-end de Noël, de toute manière, ne sera pas normal. Parce qu'il faut, en gros, après une grève comme ça, il faut au moins une semaine pour que tout reparte, au moins. Parce qu'on ne décrète pas comme ça 15 000 trains par jour, comme ça, d'un claquement de doigts. Donc, de toute manière, on est déjà à un début de vacances de Noël impacté si le mouvement, comme ça se confirme là aujourd'hui, se confirme donc dans les jours qui viennent.
C'est un argument, ça, quand on est au sommet de l'État et qu'on se dit qu'il va falloir tenir, très bien, mais dire aux Français ça va être compliqué de vous rassembler en famille ce soir-là parce qu'on est en train de passer une réforme systémique.
On parlait de l'opinion publique, elle est en balance, mais pour le coup, je pense qu'elle risque de basculer de façon de moins soutenir la grève si les gens ne peuvent pas prendre leur train pour aller passer Noël, leur fête de famille. Il risque d'y avoir une fatigue très forte. Et en général, dans tous les conflits sociaux, quand vraiment les gens n'en peuvent plus, quand il y a un phénomène d'usure, en général, ils se tournent vers le gouvernement. Ils demandent au gouvernement de lâcher. Donc, c'est là où, finalement, du côté d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron, il y aura certainement un moment, en tout cas la semaine prochaine, si ça n'évolue pas, la situation, si c'est encore très bloqué, il faudra faire certainement des concessions. Et après, il peut aussi y avoir un scénario où on fait une trêve des confiseurs pendant la période des vacances et puis ça repart de plus belle en janvier.
Pas ce que semble dire la CGT cheminot. Hein.
C'est pas ce que dit la CGT cheminot, mais du côté, par exemple, des enseignants qui vont de facto être en vacances pendant les fêtes, il y aura peut-être des reprises ou d'autres professions. Il y aura peut-être des mouvements qui reprendront en janvier, parce qu'en janvier, normalement, le texte, c'est le moment où le texte va être discuté, présenté, amendé. Donc l'histoire, elle n'est pas terminée du tout.
En 95, juste un rappel, la fin du conflit, ça avait été Noël, parce que les Français n'avaient pas imaginé qu'après trois semaines
Jacques
de
Chirac
galère,
Jacques Chirac, après
trois semaines de galère encore plus forte que celle d'aujourd'hui, on ne pouvait pas gâcher les vacances. Donc il faut bien avoir en tête ce moment-là du début des vacances de Noël, qui est une pression sur le gouvernement qui va être très forte. Parce que les gens se rendent bien compte que là, il y a des choses qui se jouent et qu'on serait peut-être à la portée d'une conciliation.
Ça veut dire que le moment de vérité, c'est mardi prochain.
Jour de
mobilisation. Bah,
je pense qu'il y a plein de moments de vérité tous les jours en ce moment d'ici mardi. Et je rajoute à ce que disait Fanny tout à l'heure, c'est qu'il y avait eu dans un sondage un soupçon très fort d'amateurisme du gouvernement. C'est-à-dire que s'il y a une grève au moment de Noël, les gens ne pouvant pas retrouver leur famille, on dit en gros perdant-perdant, 50% les grévistes, 50% le gouvernement. Si les gens se souviennent qu'en gros ça a été mal géré depuis le début, pas clair et tout, ils auront tendance probablement à les rendre encore plus responsables de la pagaille qu'il peut y avoir dans les transports.
Est-ce que c'est le grand retour des syndicats ?
Oui, c'est le grand retour des syndicats, bien sûr. Ils sont désormais tout à fait sur le devant de la scène et on voit qu'ils sont capables de bloquer ou de négocier. Dans les deux cas, ça restaure un peu leur image de marque aux uns et aux autres. Le problème de cette histoire, si je joins ça avec Noël, parce que là, les images vont beaucoup jouer. Ce qui peut aller dans le sens de Martinez et de son camp, c'est qu'aujourd'hui, quand on demande aux Français qui est responsable du blocage, c'est le gouvernement et Macron qui le sont plus que les syndicats. Donc il peut se dire, l'opinion, elle dit que ce n'est pas nous les coupables. En même temps, il faut être sacrément sûr de son coup, parce que la différence dans les sondages d'opinion entre ceux qui accusent le gouvernement et ceux qui accusent les syndicats n'est pas énorme. Donc c'est une balance sur laquelle, à mon avis, Martinez et son camp ne peuvent pas jouer facilement. Moi, je me demande si, après un succès d'une manifestation du 17, ça ne serait pas le bon moment pour ceux qui auront fait une démonstration de force nouvelle, peut-être supérieure à celle du 5 décembre, de dire « bon, on a montré notre force, on montre notre force encore plus en décidant d'une trêve de Noël ». Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord en quoi que ce soit avec ce qui est en train de se passer, mais le gouvernement nous propose de nous revoir en janvier, très bien, on gèle et on verra après.
C'est difficile de relancer un mouvement social.
C'est difficile de relancer un mouvement social, mais en même temps, on voit bien que sur les retraites, quand même, il y a matière. Hein, ouais. Ça touche tout le monde, les gens sont inquiets. Après, il y en a qui ont à gagner, il y en a qui ont à perdre. Autant Laurent Berger a à gagner, certainement il y a du grain à moudre et il peut espérer que le gouvernement va lâcher. Du côté des syndicats contestataires, le gouvernement, on voit mal Emmanuel Macron retirer la réforme.
Ils ont à perdre, c'est ça que vous voulez dire ? Du côté de la CGT, notamment ?
Du côté de la CGT, le risque, c'est de ressortir et de dire, aujourd'hui, Philippe Martinez vit ses heures de gloire, il est un peu partout, il est dans le bras de fer avec Emmanuel Macron, mais au final, qu'est-ce qu'il va dire dans quelques mois à ses troupes ? Regardez, finalement, les concessions qui ont été faites, c'est du côté de la CFDT qu'elles ont été faites, nous, on n'a pas obtenu le retrait, ça va être compliqué. Là, si on se projette dans la séquence suivante, ça va être compliqué pour Philippe Martinez, qui est quand même, on parlait de la CFDT, qui était assez homogène. La CGT, c'est beaucoup plus difficile ce qui se passe à la CGT. La CGT a perdu énormément de points d'élections professionnelles. Du côté des transports, elle a perdu des points. Elle s'est fait damer le pion par l'UNSA. Donc, Philippe Martinez, il est là dans la posture habituelle, mais il a quand même aussi beaucoup à perdre.
C'est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais il y a toujours deux indicateurs. Il y a le taux de grévistes et puis il y a les manifestations. Et là, il y a comme un glissement où les manifestations deviennent le vrai diapason de la mobilisation et de la puissance du mouvement. Parce que finalement, les manifestations se passent bien. Il y a eu un peu de casse lors de la première, un peu de provocation. La deuxième s'est très bien passée. Il y en a encore une aujourd'hui qui était plus modeste, mais qui s'est bien passée aussi. Donc finalement, les gens reviennent dans les manifestations. Laurent Berger dit « pas de grève ». Sauf la CFDT cheminots, mais pas de grève. On va à la manif du 17. Et donc là, effectivement, 17 au soir,
il y aura du monde.
On va pouvoir se compter. Et là, c'est un vrai moyen de pression, peut-être bien au-delà de la grève. Et donc, il y a peut-être une évolution de ce mouvement vers cette forme de pression qu'est la manifestation monstre.
On est d'accord qu'on ne retrouvera pas côte à côte les syndicats réformistes qui sont encore prêts à discuter avec Édouard Philippe et la CGT.
Non, ils ne feront pas comme les leaders de la gauche qui, tout d'un coup, retrouvent une certaine virginité. Mais les vieilles césures demeurent. Mais l'important, c'est le volume des gens qui seront présents mardi prochain.
Ils seront parfois dans les mêmes cortèges, mais avec des banderoles différentes.
Un mot sur le retour de la gauche. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu cette image-là, Nathalie Saint-Cricq.
De belles images.
Il a fallu la réforme des retraites pour les mettre d'accord.
Absolument. C'est une des performances de cette réforme des retraites, d'avoir réussi à remettre ensemble des gens qui ne pensaient pas la même chose. Ce qu'on peut trouver dommage, c'est que finalement, on ne soit pas allé plus loin. Quand je parlais de bien belles images sur le programme, parce qu'on sait très bien qu'ils sont radicalement opposés et qu'il n'y a pas deux personnes entre Olivier Besancenot ou Olivier Faure ou Éric Coquerel qui sont d'accord sur ce qu'il faudrait faire. Mais c'est l'embryon du début de quelque chose qui pourrait faire plaisir aux gens désespérés de la gauche qui considèrent qu'elle est trop désunie ou trop inexistante.
Mais ça ne se verra pas au municipal.
Non.
Allez, c'est la colère que le gouvernement va gérer en urgence, celle des professeurs. Après les réformes dans l'éducation, la perspective d'être les perdants de la réforme a mis assez naturellement le feu aux poudres. Édouard Philippe a promis de revaloriser leur rémunération dès 2021, mais visiblement, les promesses ne suffisent pas. Paul-Rémy Barjavel, Emmanuel Bach, reportage.
Mardi, au petit matin, une banderole annonce la couleur. Le combat est parti pour durer. Les enseignants sont, disent-ils, les grands perdants de la réforme des retraites. Devant ce collège des Yvelines, sur 75 professeurs, une trentaine sont en grève.
Personnellement, j'ai commencé en 1990. J'ai fait une simulation il n'y a pas encore très longtemps pour ma retraite. Je vais toucher 1 425 € à la fin de ma carrière. Il y a un malaise par rapport à ça.
Un malaise qui pousse ses enseignants à se mobiliser. Des profs inquiets d'une réforme qui s'ajoute aux autres difficultés qu'ils rencontrent. Les faibles rémunérations, l'accumulation des tâches, le manque de considération aussi.
Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les profs ont du temps, que les profs travaillent finalement moins que les autres, alors que tous les gens qui, à mon avis, ont des profs dans leur entourage savent très bien qu'un prof travaille largement 35 heures par semaine et que, on fait 18 heures effectives devant élèves, effectivement, mais à la maison, il y a du taf, voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui...
Moi, je suis arrivée à 8 heures ici, je suis repartie, il était 9 heures à la fin du conseil de classe. Donc je pense que sur une journée de travail, ça commence à être copieux, à 13 heures de présence sur site.
La réforme des retraites, celle de trop pour les profs. Le Premier ministre a promis hier de sanctuariser la pension des enseignants en revalorisant les salaires. Une annonce trop floue encore pour les syndicats. Ni Édouard Philippe, ni Jean-Michel Blanquer ne parviennent à calmer la fronde. Dans le cas du ministre de l'Éducation nationale, ce serait même plutôt l'inverse.
Tout le monde a compris que dans un pays où on vit plus vieux et où il y a moins d'actifs, il est normal d'agir sur l'un des paramètres.
Ceux qui vont faire grève et ceux qui bénéficient des régimes spéciaux, ne l'ont pas en tête.
Non, je pense que certains sont en grève parce qu'ils ne comprennent pas tout.
Une petite phrase qui ne passe pas. Assemblée générale dans une école maternelle en grève. Durant les débats, c'est toute la communication du ministre qui laisse perplexe.
Il a eu l'argument ultime, entre guillemets, c'est de dire si le projet de réforme n'allait pas à son terme, ce qui est purement théorique, etc., etc., bien évidemment, il n'y aura pas de revalorisation, puisque la revalorisation est liée à la mise en place de cette réforme.
Donc ça s'appelle du chantage, en fait.
C'est du chantage, tout à fait.
Il faut donc décider de la suite du mouvement. Les collègues grévistes se retrouvent pour parler de la stratégie à adopter, s'informer, s'encourager même, car il faudra tenir.
Il va falloir qu'on voit comment on redonne du souffle à ce mouvement, ce qu'on veut et comment on fait pour faire grossir la mobilisation. Même s'ils sont très forts pour diviser, on voit bien aussi qu'ils sont assez fragilisés par le mouvement, qu'ils suivent de très près.
Voilà, il faut rester absolument solidaire de tous les corps de métier, quoi. Enfin, cette réforme, elle est dégueulasse pour tout le monde.
Une manifestation samedi.
À l'unanimité, les profs décident de manifester samedi à Paris.
Les enseignants ont la sensation que ça fait des années qu'ils ont de moins en moins de droits, que leur métier est en train de se déliter et que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Il y a eu plusieurs épisodes quand même récents avec le suicide d'une collègue directrice en début d'année qui a explicitement dit que c'était en raison de ses conditions de travail Ça a créé beaucoup d'émoi chez les collègues.
À chaque manifestation depuis le 5 décembre, les enseignants sont bien là. Jean-Michel Blanquer doit rencontrer les organisations syndicales dans 2 jours. Elles ont déjà appelé à la grève mardi prochain.
Et cette question qui nous est posée ce soir, ces manifestations n'expriment-elles pas un mécontentement qui va bien au-delà des questions des retraites? Bah, pour les enseignants, oui.
Oui, le malaise enseignant, il n'est pas nouveau. Enfin, encore avant toute la série de mobilisations, de perturbations sociales, il y a eu tout un tas d'éléments qui montraient que ça allait très mal dans les écoles. Quand vous avez une directrice d'école qui se suicide à Pantin au mois d'octobre, vous avez, tous les parents voient les difficultés qu'ont les enseignants, le malaise qui est le leur, le manque de reconnaissance qu'ils expriment. Donc là, c'est vrai que la question des retraites, et pour le coup, les simulateurs qui ont fonctionné montraient qu'ils allaient vraiment y perdre. Enfin, que s'il n'y a pas un geste qui est fait, on était sur des pertes de 300 à 600 euros par mois pour les pensions. C'est absolument énorme. Et là, de la même façon que pour les cheminots, on dit il y a un contrat, quand ils sont rentrés dans l'entreprise, ils savaient que en face d'un certain nombre de contraintes de Noël qui ne sont pas passées avec les enfants, etc., il y avait des avantages avec des départs à la retraite plus rapides. Plutôt, du côté des enseignants, c'est aussi ce qu'ils vous disent. Ils vous disent, bon, on avait des salaires qui étaient très bas, mais au moins, vu le calcul, on avait grosso modo 75% de notre pension, enfin de taux de remplacement, on avait des pensions de retraite qui étaient correctes, ou en tout cas sur lesquelles on pouvait compter. Vous enlevez ça, c'est aussi une rupture de confiance. Et ça pose
là,
des questions parce que...
Il leur dit, on va revaloriser vos rémunérations. Et on a l'impression que vous parliez de la confiance tout à l'heure entre Laurent Berger et le gouvernement. On a l'impression que là, les profs disent, non, en fait, donnez-nous les chiffres, donnez-nous le calendrier.
On est en plein dedans, c'est normal. Là aussi, ils ont fait... Il y a eu pas mal de réformes qui ont été abouties ou pas abouties. Vous avez les réformes des rythmes scolaires, vous avez les réformes des évaluations. Enfin, vous avez tout un tas de réformes. Et pour les enseignants, la confiance, elle n'est plus là. Donc, ils veulent du sonnant et trébuchant. Et d'ailleurs, on voit pas comment le gouvernement va pouvoir s'en sortir avec cette catégorie de personnel sans faire un chèque, quoi, assez rapidement.
Ce que suggérait aussi cette question, c'était l'idée que cette colère sociale déborde. Il y a les routiers qui sont prévus, donc une mobilisation qui est prévue lundi. Les policiers sont assez remontés. L'unité SGP Police dit « les gentils petits fonctionnaires bien disciplinés ». C'est fini, c'est incroyable de lire des phrases comme celle-ci.
Oui, parce qu'il faut regarder le mécanisme de rupture de confiance. En fait, il y a des lois qui sont votées, il y a de la communication largement menée au niveau national, et puis quand ça arrive chez ces fonctionnaires, quand ça arrive sur le terrain, eh bien c'est beaucoup moins brillant. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que l'intendant ne s'essuie pas, parce que ça ne suffit pas d'écrire une loi ou de voter un programme de rénovation, il faut après le mettre en place. Et là, les enseignants... comme d'autres catégories, on a l'impression que il y a vraiment une... ils le disent de façon assez vulgaire, on se fout d'eux parce que finalement, on pense que ça doit se mettre en place comme ça, quasi naturellement. Ce n'est pas le cas. Prenons juste un exemple. La réforme des lycées, les enseignants n'étaient pas a priori contre. Il fallait effectivement changer quelque chose, notamment sur le baccalauréat. Et en fait, quand ils voient arriver à quelques mois de la mise en place du nouveau système l'année prochaine, ils voient qu'il y a une grande dose d'improvisation, que ça ne fonctionne pas. Il y a plein d'impasses qui vont se retrouver devant des tas systématiquement à 35 élèves et ils se disent « mais on nous a abusés ». Donc cette rupture de confiance, elle est profonde dans le monde enseignant.
Oui, Laurent Kayrol, sur le climat plus général, au-delà même de la réforme des retraites, on dit toujours « le pays est éruptif ». C'est le cas ou est-ce que là, il y a une contestation sociale organisée parce qu'il y a des syndicats et qui peut se terminer autour d'une table de discussion avec le Premier ministre? Est-ce que c'est au-delà de ça, à votre avis?
Oui, je ne crois toujours pas à la coagulation des luttes, à la convergence des luttes qu'on nous annonce depuis 50 ans. Franchement, on n'a pas de données permettant de l'avoir. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment qu'il y a des gens qui réclament des choses... parfois légitimes, parfois peut-être un peu moins, mais c'est à eux d'en juger, et qui sont des choses catégorielles. Et il n'y a pas de vraie solidarité entre ces demandes-là et les demandes de la catégorie d'à côté. C'est une chose qu'on a...
C'est chacun pour soi.
Un peu trop, voilà. Un peu trop pour imaginer cette convergence des luttes. Et en 95, je me disais ça l'autre jour en traversant Paris, il y avait une chose, y compris chez les gens qui n'étaient pas en grève, c'est qu'il y avait une espèce de gaieté dans les rues. Il y avait un plaisir à ce qu'il se passe quelque chose. Les gens s'arrêtaient pour proposer de prendre en stop les autres, etc. Il y avait une espèce de preuve amicale de la solidarité. On ne voit pas tellement ça. On voit des gens qui râlent, qui ne sont pas contents, ou des gens qui sont contents de rester chez eux. Mais voilà, y a pas de, on ne voit pas quelque chose prendre dans l'ensemble de la société.
Cette grève par procuration dont on a beaucoup parlé.
Non, c'est, ça ne se voit pas. Et donc, je n'y crois pas. En revanche, il y a des catégories dans lesquelles, en effet, les enseignants, c'est une de celles-là, dans lesquelles la mèche est allumée depuis longtemps. Et après tout, même sur cette affaire de salaire, on voit tous les ans que dans les chiffres de l'OCDE, ils sont les moins bien payés, les Français. Mais le rapport Delvoye, c'était quand, il y a 4-5 mois, il disait, les perdants de la réforme, s'il n'y a pas de compensation, il y a les aides-soignantes, les infirmières, les enseignants. Et on leur dit, depuis le rapport Delvoye, il y aura des compensations. Il suffit de dire ça et le problème est réglé.
Bah non, visiblement
quelle
pas.
Compensation non, non, pas. Combien à qui parce que on laisse entendre maintenant du côté du gouvernement que tous les enseignants n'y aura pas droit. Seulement ceux qui auraient des menaces particulières, des classes d'âge. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? D'abord, constitutionnellement, je ne suis pas sûr qu'on puisse faire passer une chose pareille. Mais de toute façon, il serait temps de dire aux enseignants à quelle sauce ils vont être mangés. Oui. Moi, je les comprends tous, de la maternelle au supérieur. Il y a un problème de ce salaire et de traitement. Il faut qu'on leur dise ce qui va être fait.
Nathalie Saint-Cric, très vite.
Oui, il va y avoir un problème très vite en janvier. C'est qu'Emmanuel Macron a demandé à toutes ses troupes de préparer les simulateurs, ce qui s'avère être une casse-tête absolue.
Alors, pour que chacun puisse savoir. Oui,
alors,
comment ce qu'il va
alors, pour simuler, il faut savoir avoir à partir de quand on a un salaire augmenté. Quand, est-ce que ce sont des primes ? Est-ce que les primes on le donne à tout le monde ? Pour l'instant, ce qui a circulé sont des simulateurs qui sont biaisés puisque c'est des simulateurs de retraite bidon aujourd'hui avec effectivement la carrière où il y a très peu de primes pour certains et surtout en fin de carrière. Mais si le gouvernement veut rassurer, la seule solution, c'est d'être capable de le faire ça et rapidement. C'était une proposition un peu piège de Xavier Bertrand il y a 2 mois, il est temps de pouvoir le mettre en œuvre, si tant est que ce soit possible, de manière à ce qu'on travaille sur du dur et pas sur des fantasmes.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Cette question, je dois me déplacer pour les fêtes de Noël, je prends mes billets, votre avis, Gilles Dansart. Allez,
essayez. Bon, alors, allez. Le plus tard possible, hein, vaut mieux jouer le 31 que le 24, hein, si
pour prendre les
un
billets.
Conseil à donner.
Ouais, d'accord, enfin Noël, ça reste le 24, hein, soir. Ouais, à un moment donné, ça ne va pas pouvoir bouger. Hein.
Non, ça va être compliqué, encore une fois, si le mouvement est fort jusqu'à la manifestation de mardi prochain, ça va être dur de faire des trains pour le 19-20-21. Peut-être que ça reviendra après, mais ça se joue là dans au plus tard mardi, mercredi prochain pour le début des vacances
parce
de Noël.
Parce que vous nous expliquez que même si le travail reprend, il faut 8 jours pour remettre le trafic en place.
Il faut progressivement une semaine pour que tout revienne. Alors, ils feront certainement des priorités, puisque comme c'est des vacances, on mettra certainement des priorités sur les TGV, les trains longue distance, etc. Mais ça reviendra difficilement anormal en 2-3 jours.
Les Parisiens et tous les Français seront impactés si la grève perdure jusqu'à Noël. Les syndicats ne craignent-ils pas que l'opinion se retourne contre eux ? Alors, je crois que c'est Fanny Guinochet qui vous disait tout à l'heure, mais quand ça se tend vraiment autour de Noël, on va plutôt se retourner vers l'État.
En général, pour sortir d'un conflit, quand il y a de la lassitude, on se tourne vers l'État. Mais c'est vrai que les syndicats ne sont quand même pas au meilleur de leur forme. Même s'ils reprennent un petit coup de vigueur, ils risquent de sortir un peu perdants. Parce que ce que peuvent se dire aussi une majorité de Français, c'est tout ça, c'est de la posture entre les politiques, les syndicats, c'est un peu tous les mêmes. Mmh. Et tout à l'heure, on parlait du perdant-perdant. C'est aussi ce qui risque de se jouer, c'est-à-dire une forme de défiance ou d'éloignement encore des corps intermédiaires et des représentants.
C'est important ce que vous dites. C'est ce qu'on avait entendu pendant la crise des Gilets jaunes. Oui, des gens qui disaient, de toute façon, les syndicats, on ne les veut pas parce qu'ils sont... ils travaillent main dans la main avec le pouvoir.
Là, ce n'est pas évident, manifestement. Non. C'est plutôt le contraire. Moi, ce que je veux juste pour rebondir ça, c'est quand on entend ce matin, il n'y aura pas de trêve pour Noël, c'est un côté provocant. C'est-à-dire qu'y compris dans quelques fois dans l'attitude de Philippe Martinez, c'est un côté, on est revenu, on est là et on ne va pas lâcher.
Et les gilets jaunes, c'est pas si vieux. Hein. Enfin, c'est il y a 6 mois. Enfin, il faut pas oublier, ça a pas complètement transformé. Donc, certes, ils reprennent de la vigueur, mais ça veut pas du tout dire qu'ils vont retrouver la place qui était la leur.
Et le soutien des Français dans un moment comme celui-ci. Pourquoi franchir sciemment une ligne rouge ? Manœuvre, manipulation ou amateurisme ? Vous avez le choix.
Oui, il y en a même qui ajoutent machiavélisme. Il le fait exprès pour lâcher à la fin et qu'il ait choisi les vainqueurs. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt un manque de gestion raisonnable.
Ça s'appelle de l'amateurisme, c'est ça ?
Ce serait le plus proche, ce serait ça. Ouais. Mais ce n'est pas tout à fait de l'amateurisme, parce qu'ils le font exprès. L'amateurisme, vous ne savez pas, vous jouez avec... Là, je crois qu'il y a... Macron a accepté la proposition d'Édouard Philippe. C'est pas, ça ne lui a pas échappé. Il lui a dit « vas-y ». Alors qu'il savait le risque qu'il prenait. Donc c'est plutôt, je crois, là... voilà, peut-être un peu trop de... Moi, mon hypothèse, c'est un peu trop de certitude de soi-même.
Et puis, de toute façon, d'aller toujours un petit peu plus loin pour voir jusqu'où ça va se casser la figure ou jusqu'où ça
peut-être,
va tenir.
Peut-être.
Le dialogue social ne s'est-il pas limité à des discussions entre le président et une poignée de ministres ? Ils étaient là, les syndicats, ou pas ?
Les ministres alertent depuis nombreux mois sur la difficulté de la réforme. Jean-Michel Blanquer, dont on parlait tout à l'heure, il n'y était pas très favorable parce qu'un million d'enseignants... avec des situations extrêmement différentes, et puis un fossé entre leur rémunération, la retraite et puis le futur calcul. Il n'était pas pour. Donc il y a eu des tas d'alertes sur la difficulté de mettre en œuvre cette réforme systémique et de bien la préparer. Et cette précipitation en fin d'année, finalement, elle est contre-productive parce qu'il fallait y prendre un certain temps. Les pays qui l'ont mise en œuvre ont mis beaucoup de temps pour la mettre en œuvre parce qu'il fallait tout étudier. Donc ils n'ont pas entendu les alertes, en tout cas, que leur ont donné à la fois leurs ministres, une partie de la majorité, et des syndicalistes.
Et puis cette question budgétaire, elle est quand même pas anodine. Hein. On dépasse, on n'est pas loin des 100% de notre dette par rapport à notre produit intérieur brut. Enfin, je veux dire, c'est là le risque qui va se passer aussi en faisant cette réforme de façon aussi musclée, conflictuelle, c'est qu'on va lâcher le chéquier, un peu comme les gilets jaunes. Donc
ça va coûter cher à la fin.
Ça risque de coûter cher à la fin. Mmh. Et la France n'est pas en très bonne forme financière. On reste encore extrêmement on a beaucoup de difficultés à limiter nos déficits et nos dépenses.
La CFDT ne cherche-t-elle pas à protéger sa place de premier syndicat ?
Il y a une bataille qui se joue, bien sûr, en tout cas de la garder, de ne pas se faire... elle vient de l'avoir, c'était historique, ça fait à peine un an, quasiment jour pour jour. La volonté de Laurent Berger, c'est de ne pas perdre, ça s'est fait quand même de façon à un cheveu, donc c'est de ne pas perdre, de ne pas repasser à la deuxième place, évidemment.
Pourquoi cette réforme plaît-elle tant au MEDEF? Alors c'est vrai qu'on a oublié de le dire, que le MEDEF est favorable.
Il fait profil bas quand même. Hein.
Oui.
Enfin, pour l'instant, il dit il est favorable aux mesures paramétriques. Il est favorable au fait de reculer l'âge de départ à la retraite, sans poser la solution qui est quand même, ok, on fait travailler les gens plus longtemps,
mais
comment on les maintient dans l'emploi? Parce que quand on regarde les chiffres du chômage, c'est factuellement effarant, mais un senior sur deux est au chômage en France.
Et là, il doit y avoir une négociation en janvier. Et là, aussi bien le MEDEF que les syndicats de salariés sont d'accord pour travailler là-dessus.
N'aurait-il pas été plus simple de reculer progressivement l'âge de départ pour tous? C'est ce qu'on a fait depuis des années.
C'est ce qu'on a fait depuis des années, mais il y avait eu un engagement d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Alors est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas non plus imaginer qu'il n'a peut-être pas un idéal de réforme ou qu'il se dit qu'il veut laisser son nom dans l'histoire comme quelqu'un qui a... Et puis il y a aussi quelque chose qui est plus juste. Hein. On aurait pu peut-être faire par morceaux, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est évident que sur les femmes, c'est quelque chose qui semble beaucoup plus juste. C'est évident que pour toute personne qui travaille de façon, on dit toujours hachée, mais les étudiants qui travaillent, qui font des petits boulots pour payer leurs études et qui ne sont validés que s'ils ont 150 heures par trimestre. Donc il y a peut-être la volonté, mais peut-être qu'il a eu les yeux plus grands que le ventre ou je ne sais quoi, et que la facilité eut peut-être été effectivement de faire comme à chaque fois, c'est-à-dire on rajoute un petit peu.
La facilité, oui, mais c'est un certain courage aussi de se dire le système marche pas bien, il est devenu très injuste pour des tas de catégories, on va en construire un autre qui sera plus juste. Moi j'avais été intéressé le jour où il est venu nous parler un quart d'heure à la télévision la semaine dernière, le Premier ministre, par le fait qu'il avait mis en avant la raison de faire cette réforme qui était la justice sociale, ce qui n'est pas son vocabulaire habituel, hein, et que d'ailleurs il n'a pas repris dans son discours au Conseil économique. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la justice sociale, a priori, hein, des femmes, des emplois hachés, des précaires d'une façon générale, le nombre de jeunes qui aujourd'hui travaillent 3 jours, 4 jours, fait rien, refait un peu d'intérim, va ailleurs, voilà, tout ça, c'est souvent, ils n'ont pas les 150 heures, et donc ça ne compte pas du tout dans la retraite. Et c'est une façon de travailler qu'ont désormais 20% de la société
française. Et ça, c'est vrai qu'on a assez
donc,
peu parlé.
Donc c'est un certain courage de se dire... On y va, on met tout à plat.
Et ça, c'est vrai, Roland Cayrol, qu'on en a assez plus parlé, parce qu'il y a eu cette affaire d'âge pivot qui a tout emporté sur son passage. Ouais. Ce mouvement n'est-il pas devenu une contestation politique ?
Ça risque, il y a une partie qui aimerait le transformer en contestation politique et ça risque de l'être encore plus au mois de janvier, au moment de la discussion autour du projet de loi. Et puis en plus, on se rapprochera des municipales, donc forcément, ça deviendra un enjeu politique.
La corde ne risque-t-elle pas de se rompre entre le peuple et les syndicats, Gilles Dansa ?
Pour l'instant, Roland Cœur disait, il n'y a pas de fraternisation comme en 95, mais il n'y a pas non plus d'agressivité.
Non.
On est entre deux, donc on ne sait pas comment ça peut basculer. Vraiment, c'est un conflit atypique et on verra la semaine prochaine comment il évolue.
La question de l'âge pivot peut-elle mener à une mobilisation sans précédent le 17 décembre ?
Supérieure à celle du 5, possiblement. C'est devenu le vrai indicateur du mouvement, oui. Tout
à fait. À l'issue de ce combat, ce sera la fin de La République En Marche ou de la CGT ?
Non, enfin, on verra bien. Je crois que ce n'est pas aussi binaire que ça. On verra. Le risque, c'est quand même que ce soit perdant-perdant. Hein.
Pourquoi la France était un pays aussi difficile à réformer ? C'est la méthode, peut-être hein ?
Parce qu'on est des Gaulois, on est particuliers.
Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h35. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlé pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.